Alors, c'est un dimanche un peu spécial, hein, y a pas le matériel habituel. C'est un peu particulier d'avoir les enfants qui y vont, qui viennent, qui préparent. Ça nous montre qu'ils sont là. C'est l'occasion pendant cette période de l'année de voir que voilà, ils sont présents parmi nous. Ils préparent activement des choses pour nous. Et ça nous réjouit d'autant plus, parce que c'est vrai qu'ils sont là au culte, ils assistent, ensuite ils partent et on ne les voit pas pendant la prédication. Mais là, ils ont participé au culte, on les a vus, entendus. Voilà, c'est un sujet de reconnaissance par rapport au travail des moniteurs et au travail des parents aussi, qui les accompagnent. Alors, pour la prédication, vous voyez, le titre est un peu spécial. Réjouissez-vous des insultes, point d'interrogation. À cette période de l'année, nous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année. Nous souhaitons à nos connaissances de passer de bonnes fêtes et une bonne fin d'année. Nous présentons nos meilleurs vœux, malgré le contexte sanitaire compliqué. Alors maintenant, imaginez que je vous souhaite d'être insulté. Imaginez qu'au lieu de vous présenter mes meilleurs vœux pour les fêtes, je vous dise « Bonne fin d'année, je vous souhaite de recevoir plein d'insultes. » Et surtout, que l'on dise du mal de vous. Comment réagiriez-vous? Nous sommes d'accord de dire que ce genre de vœux serait très mal pris et même choquant. Pourtant, Jésus a exprimé ce genre de vœux à ses disciples. Alors bien sûr, il y a un contexte à prendre en compte. Il s'agissait d'être insulté pour sa foi en Jésus. Mais ces paroles restent choquantes. J'entends parfois dire que si Jésus était membre de l'une de nos églises, il ne serait pas un membre très apprécié, car il choquerait beaucoup de gens. Et je pense que nous devrions nous laisser choquer par Jésus pour comprendre ce qu'il veut nous dire. Évidemment, Jésus n'a pas souhaité à ses disciples d'être insultés pour rien. Voici exactement ce qu'il a dit. En Matthieu 5, versets 10 à 12. « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Il y a deux semaines, ma prédication portait sur le début des béatitudes. Les béatitudes désignent le début du sermon sur la montagne, un discours de Jésus présent notamment dans l'évangile selon Matthieu. Et c'est là où Jésus déclare heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont doux, etc. Aujourd'hui, j'aimerais parler des béatitudes. Alors, on a vu les quatre premières béatitudes il y a deux semaines. Aujourd'hui, j'aimerais parler des béatitudes en commençant par la fin. Je commence donc par la persécution. C'est ainsi que se terminent les béatitudes. Alors voilà, on va dire que je reste dans l'esprit de l'avant. C'est un peu comme un compte à rebours. au lieu de commencer par le premier point, je commence par le dernier. Et la dernière béatitude, c'est la huitième. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Cette huitième béatitude compte double, voire triple. À chaque béatitude, Jésus déclare heureux celui qui adopte l'attitude qui est décrite. Et pour la huitième béatitude, qui concerne celui qui est persécuté à cause de lui, Jésus le déclare trois fois heureux. Et en fait, pour être plus précis, il utilise le mot « heureux » deux fois, et la troisième fois, il dit « réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse ». C'est une manière de terminer en beauté. Cette dernière béatitude est vraiment mise en évidence. Alors que veut-il dire lorsqu'il dit « heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient ». La justice est présente plusieurs fois dans le reste du sermon sur la montagne, et à chaque fois, elle est liée au royaume des cieux. Par exemple, au verset 20, Jésus dira à ses auditeurs, « Si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Par là, il veut dire que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut respecter plus que la loi à la lettre. Il faut respecter l'esprit de la loi. Par exemple, quand la loi dit qu'il ne faut pas tuer, Jésus dit que nos paroles peuvent faire l'effet d'un meurtre. Il faut donc ne pas tuer, mais aussi ne pas insulter son prochain. Il y a une question d'orientation du cœur. Si notre justice n'est pas irréprochable, nous ne pourrons pas entrer dans le royaume des cieux sur la base du mérite. Et c'est une manière de dire que sans la grâce, c'est impossible. Il y a ce lien entre la justice et le royaume. Plus loin, au chapitre 6, au verset 33, Jésus dira « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné en plus. » Et là encore, il y a un lien entre le royaume et la justice. Dans son sermon sur la montagne, Jésus met en évidence que l'orientation du cœur est plus importante que l'apparence. Selon sa justice, Dieu reçoit dans son royaume tous ceux qui lui ouvrent sincèrement leur cœur et qui s'efforcent de se laisser transformer afin d'agir et de penser selon la justice de Dieu. Imaginez que vous amenez un enfant faire un tour de manège sur l'une de ces grandes roues, vous savez, les grandes roues qui tournent comme ça, qui montent à plusieurs mètres, plusieurs dizaines de mètres du sol. Donc une fois monté dans la cabine, l'enfant se met debout sur son siège, car il ne veut pas s'asseoir, il préfère rester debout, et en plus debout sur le siège. Alors vous lui demandez de s'asseoir, c'est dangereux, un adulte ne laisserait pas un enfant se mettre debout ainsi, sur ce genre de manège. Vous lui demandez de s'asseoir et il vous ignore. Alors vous insistez, s'il te plaît, assieds-toi. C'est dangereux de se mettre debout sur le siège. Et l'enfant vous répond, non, je ne veux pas obéir. Alors vous insistez, vous vous mettez en colère, vous lui demandez fermement de s'asseoir. Et au bout d'un moment, l'enfant s'assoit enfin. Mais il vous déclare, je suis assis, mais dans mon cœur, je suis debout. L'enfant a-t-il obéi ? On va faire un sondage. Qui pense que l'enfant a obéi ? Alors c'est une question piège. Parce que en apparence, l'enfant a obéi. Mais dans son cœur, il est resté rebelle. En apparence, il a obéi. Et dans son cœur, il est resté rebelle. Et cette question en amène une autre. Quelqu'un qui s'efforce de faire le bien durant sa vie, mais qui rejette Dieu dans son cœur, est-il obéissant à Dieu ? Selon la justice de Dieu, ce n'est pas seulement celui qui obéit en apparence qui entre dans le royaume des cieux, c'est celui qui a un cœur disposé. Au temps de Jésus, un groupe de religieux obéissait en apparence, les pharisiens. Jésus n'arrêtait pas de leur dire que malgré leur obéissance apparente, leur cœur n'était pas orienté vers Dieu. Et c'est à cause de ce genre de discours que Jésus a été persécuté et mis à mort. C'est aussi à cause de ce genre de discours que les disciples, et plus largement les chrétiens, ne sont pas à l'abri des insultes. Selon la justice de Dieu, le royaume des cieux est pour ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, ceux qui reconnaissent avec humilité leur indigence devant le Seigneur. Une bonne partie de la population ne supportait pas cet enseignement de Jésus, et c'est notamment pour cela qu'il a été mis à mort. Et rien n'a changé aujourd'hui. Le disciple qui annonce fidèlement l'évangile risque d'être insulté et on dira du mal de lui. C'est un sujet de grande réjouissance pour lui, dit Jésus, car cela est un signe de sa fidélité à Jésus. Cette béatitude, heureux ceux qui sont persécutés à cause de Jésus, cette béatitude concernant la persécution est en lien avec la béatitude d'avant. C'est la septième béatitude. Alors voilà, on va lire le texte de bas en haut. Là, c'est le verset 9, septième béatitude. « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Quel rapport entre la paix et la persécution pour la justice de Dieu ? La paix dont il est question ici, ce n'est pas la tranquillité. Assez souvent, on a tendance à confondre la paix et l'apaisement. La paix dont Jésus parle, ce n'est pas l'état zen, ce n'est pas la tranquillité. Dans une famille, dans une église, dans un groupe d'amis ou dans un couple, si l'on souhaite être tranquille, si l'on souhaite que tout soit paisible, il vaut mieux ne pas parler des sujets qui fâchent. C'est exactement ce que les faux prophètes ont fait pendant toute l'Ancienne Alliance. Et c'est aussi ce que Dieu leur reproche. Pas plus tard que jeudi soir, avec le groupe d'études bibliques de Gobert Ingré, nous avons lu dans le livre du prophète Jérémie que Dieu reprochait aux faux prophètes de dire « Tout va bien, tout va bien », alors que rien ne va. Dire que tout va bien, était pour eux une manière de ne pas chercher des histoires, de ne pas faire d'histoire, de ne pas se mettre à dos les rois, les autorités et la population. En disant que tout allait bien, ces prophètes étaient tranquilles, ils menaient la belle vie, mais ils n'apportaient pas la paix autour d'eux. Selon Jésus, apporter la paix, c'est quand on aide à faire la paix. Autrement dit, c'est quand on cherche la réconciliation. Dieu a souhaité se réconcilier avec l'humanité. Et c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus. Et c'est cela que nous fêtons à Noël, la réconciliation. Dieu est venu proposer sa réconciliation avec l'humanité. C'est pour cela que Jésus a été envoyé. Pour que la paix soit possible, il faut admettre qu'une relation a été brisée. Ceux qui procurent la paix sont donc aussi ceux qui annoncent que ça ne va pas, que l'être humain a un problème relationnel avec Dieu. Et paradoxalement, ceux qui cherchent à apporter cette paix ne sont pas très aimés, car ils mettent le doigt là où ça fait mal, d'où les insultes et la persécution dont Jésus parle dans ses béatitudes. Alors comment avoir le courage de procurer la paix ? Comment oser proclamer que l'humanité a besoin de se réconcilier avec Dieu ? Eh bien, il faut d'abord vivre cette réconciliation. Il faut d'abord reconnaître soi-même que l'on a besoin d'être en paix avec Dieu. Et c'est pour cela que Jésus dit dans sa sixième béatitude au verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Avoir le cœur pur, c'est d'abord être transparent devant Dieu, ne rien lui cacher, même ses fautes et ses erreurs. Avoir le cœur pur, c'est avoir aussi le cœur purifié par Dieu. Tout à l'heure, nous avions parlé des pharisiens Jésus leur reprochait de laver l'extérieur de la coupe, alors que l'intérieur, c'était l'intérieur qui doit être propre. Imaginez que vous allez dans un salon de thé et qu'on vous serve un thé dans une très belle tasse. Mais lorsque vous regardez à l'intérieur, les parois sont infestées de moisissures. La tasse a beau être jolie à l'extérieur, mais cela ne sert à rien si l'intérieur est sale. C'est pareil pour notre cœur. Dieu seul peut opérer la purification de notre cœur. Il nous invite à lui confier cette tâche dans les deux sens du terme. Le cœur pur dont Jésus parle signifie non seulement la transparence devant Dieu, mais aussi devant les autres. Avoir le cœur pur, c'est aussi être honnête et sincère. Comment procurer la paix et parler de la réconciliation avec Dieu si notre témoignage n'est pas crédible? Notre relation avec Dieu impacte nécessairement notre relation avec les autres. Cet aspect de la vie de disciple est particulièrement mis en avant dans la cinquième béatitude au verset 7. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Dans les autres traductions, dans d'autres traductions, il est question de miséricorde. À première vue, cette invitation à faire preuve de bonté ne peut faire que l'unanimité. Mais si l'on prend en compte l'ensemble du sermon sur la montagne, Jésus n'invite pas ses disciples seulement à faire le bien. Il invite ses disciples à faire le bien abondamment, en toute situation et envers tout le monde. Il ne s'agit pas que d'une ou plusieurs œuvres, il s'agit d'une manière de vivre. Jésus dira clairement que procurer du bien aux personnes que l'on aime, c'est facile. Il y a à peine du mérite à faire cela. En revanche, faire preuve de bonté envers les méchants et même envers nos ennemis, c'est à cela que Jésus nous invite. La miséricorde, selon Jésus, c'est une miséricorde pour tous, pour les bons et les méchants, pour les gens qu'on aime bien et les gens qui nous agacent. Ces personnes que l'on trouve difficiles à supporter, il ne faut pas toujours aller bien loin pour les trouver. Ils font peut-être partie de notre famille, de notre communauté, de notre voisinage ou nos collègues. Jésus nous invite à être bons aussi et surtout envers eux. Cette cinquième béatitude nous fait penser à la quatrième. La bonté selon Dieu est différente de la bonté selon l'être humain, tout comme la justice de Dieu est différente de la justice humaine. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Alors à partir de maintenant, je vais être un peu plus bref, car j'ai déjà abordé les quatre premières béatitudes il y a deux semaines. Dans cette quatrième béatitude, Jésus n'invite pas ses disciples à procurer la justice. Il ne dit pas « faites justice », il dit « ayez faim et soif de justice », parce que seul Dieu peut procurer cette justice parfaite. Il s'agit alors de désirer ce que Dieu désire. La justice de Dieu est différente de la justice selon les hommes. Elle est plus juste, elle est meilleure. C'est pour cela que nous devons en avoir faim et soif. C'est une manière de demander à Dieu d'accomplir sa justice, celle qui pardonne même au pire des pécheurs s'il se repent. La bonté de Dieu s'étend à toute l'humanité et sa justice aussi. C'est à lui que nous devons regarder pour arriver à faire preuve de bonté autour de nous. Pour aspirer à cette justice et faire miséricorde, nous avons besoin d'humilité, de nous rendre compte que nous ne sommes pas forcément meilleurs que notre prochain. Et c'est ce dont il est question dans la troisième béatitude. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. La douceur, c'est le contraire de la force. C'est ce qui caractérise le Christ, qui est venu non pour être servi, mais pour servir. Il n'est pas venu sur un char militaire, il n'est pas né dans un palais, mais dans une étable. Être doux avec quelqu'un, c'est ne pas le prendre de haut, ne pas penser que l'on est supérieur à lui. Nous arrivons aux deux premières béatitudes que je trouve étroitement liées. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Et la première béatitude, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Toutes les béatitudes sont liées, car celui qui reconnaît sa pauvreté spirituelle se met à genoux devant Dieu. Il pleure, il en pleure, et ensuite il fait preuve d'humilité et de douceur. Reconnaître notre pauvreté spirituelle, c'est reconnaître notre besoin de Dieu. Sans lui, nous sommes perdus. Sans lui, nous sommes sans repère. Autrement dit, nous sommes esclaves de ce que la Bible appelle le péché. Dans la Bible, pour quelles raisons les hommes de Dieu pleurent-ils? Alors je reconnais que quand il dit qu'il va consoler ceux qui pleurent, il va bien sûr nous consoler de nos épreuves, ce pourquoi nous pleurons. Mais dans la Bible, pour quelles raisons les hommes de Dieu pleurent-ils? Je prends juste deux exemples parmi d'autres. Voici ce que l'auteur du psaume 119 dit au verset 136. « Mes yeux versent des torrents de larmes parce qu'on ne respecte pas ta loi. » Dans le Nouveau Testament, voici ce que déclare l'apôtre Paul en Philippiens 3, verset 18. « En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix du Christ. » Je vous ai souvent parlé d'eux, et je le fais maintenant encore en pleurant. Les hommes de Dieu dans la Bible pleuraient, ils pleuraient, parce qu'ils se rendaient compte à quel point le péché est incrusté dans le cœur humain. De la pauvreté spirituelle à la persécution, tout est lié, tout est centré sur Jésus, sur ses promesses de paix et de justice. Pour conclure, pourquoi ai-je choisi ce texte en période de Noël? Pendant Noël, la plupart des Occidentaux s'offrent des cadeaux. Pour nous, Noël, c'est avant tout un cadeau que l'on reçoit de la part de Dieu. Il est venu lui-même sur terre pour nous guider vers le Père. Les cadeaux sont censés nous rendre heureux. Ils sont censés nous faire plaisir. Quand j'entre dans un magasin, il arrive que le vendeur me demande « Avez-vous trouvé votre bonheur ? » Avez-vous trouvé votre bonheur ? À chaque fois, ça m'interpelle cette question. À Noël, sur les affiches des magasins, on peut lire des slogans du type, et je le lis, hein, c'est très présent, « Offrez du plaisir. Offrez de la joie. » Mais le vrai bonheur, la vraie bénédiction, la vraie joie, elle est autre part. Paradoxalement, elle est dans la pauvreté de cœur, dans les pleurs, dans la douceur, dans la justice divine, dans la miséricorde, dans la pureté de cœur, dans la réconciliation avec Dieu, et enfin la joie. Jésus insiste sur ce dernier point. Elle est dans l'insulte et la persécution, dans la mesure où cette persécution est due à la fidélité au Christ. Nous n'avons pas à provoquer la persécution, mais si un jour nous la subissons, Jésus nous déclare heureux, car nous sommes bien ses disciples. Le sermon sur la montagne est un discours choquant, voire inaudible. C'est loin du Noël féerique et enchanté que l'on veut nous vendre. Pourtant, c'est ce que Jésus promet et c'est mieux que tout le reste. Que Dieu nous aide à trouver de la joie, de la fidélité à sa parole et à son Fils Jésus. Amen. Avant de prendre un chant, j'aimerais nous inviter à simplement la prière. Que ceux qui le souhaitent puissent prendre la parole à haute voix. Ceux qui veulent le faire dans le secret de leur cœur, c'est possible aussi. Mais ceux qui veulent exprimer à haute voix une prière, sentez-vous libre. Et je terminerai moi aussi par une prière. Prions ensemble.